Bonjour à tous. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Chers auditeurs, les Juifs qui aiment Israël vivent une époque d'inquiétude et d'espoir. Une époque d'inquiétude, car la réforme de la justice que le gouvernement Netanyahou veut mettre en place pourrait conduire inexorablement vers un changement de régime et l'instauration d'un pouvoir autoritaire et théocratique. C'en serait fini de l'État juif et démocratique inscrit dans la Déclaration d'indépendance de 1948. Une époque d'espoir, car les citoyens d'Israël se sont mobilisés en masse et avec courage pour défendre et sauver la démocratie du pays. C'est une mobilisation totalement inédite. Ainsi, ils étaient 600 000 rassemblés samedi dernier dans toutes les villes du pays à exiger l'arrêt de cette réforme avant le limogeage par Netanyahou du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui demandait justement que l'on fasse une pause pour réfléchir. En tout, ce sont 1 million d'Israéliens sur 9 millions qui ont participé aux manifestations. Ce formidable sursaut démocratique se déroule également dans toutes les communautés juives du monde, aux États-Unis et au Canada, en Grande-Bretagne et au Brésil. Au niveau européen, les amis d'Israël se mobilisent également. Ainsi, au Parlement de Bruxelles, a eu lieu le lundi 27 mars dernier une grande manifestation qui se voulait un appel à la raison pour sauver la démocratie israélienne. Ce nouvel appel a été lancé par les organisations J-Call, le Centre communautaire laïque juif de Bruxelles et La Paix Maintenant. En présence de plusieurs députés européens, des grandes voix se sont exprimées pour défendre les libertés. Je vous en cite quelques-unes. Robert Badinter, Tzipi Livni, Alain Finkielkraut, Elie Barnavi, Anne Sinclair. Ilana Sicurel, que nous recevons, a participé au premier rang à ce grand rassemblement européen. Elle va nous donner son sentiment quant aux raisons et à l'importance de cette réunion. Ilana Sicurel a été directrice générale de l'Alliance israélite universelle. Elle est députée européenne depuis 2020, membre Renaissance de la délégation de l'Union européenne avec Israël et membre de la délégation européenne avec Israël. Bonjour Ilana Sicurel.
Bonjour.
Ça va, j'ai été correct dans votre présentation.
Oui, très bien. Voilà.
Alors, bienvenue sur notre antenne. Première question, Madame la députée, pourquoi avoir aidé à tenir ce rassemblement pour la démocratie israélienne au Parlement européen et quelles étaient les raisons de votre participation active ?
Je pense que c'est très important que cette réunion ait eu lieu au Parlement européen et que J-Call ait pris cette initiative. Parce que J-Call, qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative que je suis depuis bien des années. C'est un rassemblement de personnalités, de citoyennes et de citoyens engagés et qui sont profondément préoccupés par le destin d'Israël. Ce sont des femmes et des hommes qui ont souvent pris des risques pour la défense d'Israël, pour l'explication du contexte complexe dans lequel Israël se développe, et qui donc, quand ils prennent la parole pour émettre une critique, un avertissement à l'écart du gouvernement israélien, c'est parce qu'ils sont profondément convaincus qu'Israël prend des risques, qu'Israël est menacé dans son avenir. Et il ne s'agit pas pour eux de se mettre à l'abri pour leur propre réputation. Il s'agit d'une parole qui est mue par cette envie de préserver Israël d'un risque absolument existentiel que le pays est en train de prendre.
D'accord. Alors, pour aller dans votre sens, il y avait des grandes voix lors de ce meeting, en plus de ceux que j'ai précédemment nommés. Il y avait Dominique Schneider, il y avait la chanteuse Noah, il y avait Maurice Lévy, Patrick Gluckman et puis Bernard Guetta qui nous accueillaient. Comment vous expliquez cette présence forte et d'une grande qualité ? Est-ce que les Juifs de France ont le droit de s'exprimer sur cette affaire politique israélienne ? Parce qu'il y avait quand même des gens qui avaient une forte voix qui représentait beaucoup de choses pour les Juifs et pour les Français.
Écoutez, je crois crois que c'est Anne Sinclair qui s'est d'ailleurs brillamment exprimée et de manière très émouvante.
Oui, son discours est passé dans le monde.
Oui, qui a résumé, je crois, le fil rouge de cette soirée en disant « Si nous nous taisions, nous nous rendrions complices de ce qui peut menacer Israël ». Et je crois que ça fait écho quelque part à une parole prophétique hein, d'Isaïe qui disait « Pour l'amour d'Israël, je ne me tairai pas ». Il y avait quelque chose de cet ordre. Ce qui est en train de se passer en Israël est d'une gravité extrême pour l'avenir d'Israël. Et je crois qu'il est tout à fait non seulement une possibilité, mais une nécessité hein, pour les Juifs de diaspora de s'exprimer. Et heureusement, ça ne s'est pas si souvent produit. Mais aujourd'hui, nous sommes, et nous le voyons avec cette extraordinaire mobilisation à laquelle vous faisiez allusion, 600 000 Israéliens dans les rues qui montrent l'attachement des Israéliens à la démocratie, aux principes démocratiques, eh bien, il y a une nécessité aujourd'hui de prendre la parole. C'était une soirée où les prises de parole ont été d'une grande qualité et je dirais d'une grande profondeur, chacun parlant de là où il est, hein, de son expertise.
Très motivé.
Je me souviens en particulier de la prise de parole du rabbin Rivon Krigier qui a rappelé que il ne s'agit pas seulement d'une réforme judiciaire qui peut être souhaitable par certains et pas par d'autres. En fait, il s'agit véritablement d'une rupture radicale avec, puisque à partir du moment, je le rappelle, où vous avez 6 postes sur 11 qui seraient attribués à la coalition au pouvoir et qu'une simple majorité à la Knesset pourrait permettre de remettre en cause une décision de la Cour suprême, on sort de l'état de droit. Hein. On a la possibilité
absolument.
Pour le pouvoir politique de faire absolument ce qu'il veut. Or, et je l'ai rappelé moi-même en hémicycle, parce que je suis une députée européenne, vous l'avez rappelé, très engagée pour le renforcement des liens entre l'Union européenne et Israël, que je considère comme bénéfique pour les deux parties. Et pour la première fois, lorsque ce débat en hémicycle a eu lieu sur cette réforme judiciaire, j'ai pris la parole en m'adressant au Premier ministre Benjamin Netanyahou et en lui demandant de retirer cette réforme, parce que pour moi, cette réforme tournerait le dos non seulement à la tradition démocratique qui, comme vous le rappeliez, est inscrite dans les principes fondateurs de l'État d'Israël, proclamés par Ben-Gourion.
Déclaration d'indépendance.
Voilà, mais j'irai encore plus loin. J'irai plus loin en disant que, selon moi, et pas seulement selon moi, selon des grands penseurs du judaïsme comme le grand rabbin Sacks, qui est, comme chacun sait, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, décédé malheureusement il y a peu, il y a des origines bibliques dans la démocratie européenne. Il n'y a pas d'opposition entre d'un côté la démocratie et de l'autre côté les principes bibliques et la sagesse juive. En réalité, la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique est inscrite dans la Torah. Et pour être encore plus précise, je citerai, je l'ai fait d'ailleurs en hémicycle, ce qui était tout à fait atypique, hein, mais je le ressentais profondément parce que la paracha Shoftim, les juges, indique comme première obligation quand on fonde une ville de créer un tribunal. Vous avez le principe selon lequel le pouvoir judiciaire doit être séparé du pouvoir politique, de la prêtrise, et ensuite vous avez les prophètes qui sont garants de l'équilibre entre ces pouvoirs. Ça veut dire que Montesquieu, quelque part, avait été précédé par la Torah. C'est quelque chose de fondamental dans la sagesse juive que de se méfier du pouvoir politique, que de considérer que la limitation entre les pouvoirs est quelque chose d'absolument essentiel, parce que vous savez bien que la sagesse juive se méfie de l'humain. Et donc cette manière de remettre en cause le pouvoir judiciaire est fondamentalement contraire, tout simplement, au judaïsme.
Oui, c'était le rôle des prophètes, un peu.
Absolument. Voilà. Et je dirais qu'il y avait, je vous disais, une tonalité presque prophétique dans cette manière de dire « si nous nous taisions, nous nous rendrions complices de ce qui menace Israël », disait Anne Sinclair, et bien c'est un peu Ésaïe qui vient dire « pour l'amour d'Israël, je ne me tairai pas ». Eh bien non, les leaders du judaïsme ne doivent pas aujourd'hui se taire par amour pour Israël.
Alors, c'était une formidable démonstration. Alors, je sais que vous avez eu des débats au Parlement européen, vous venez justement de les évoquer. Il n'y a pas que des amis d'Israël au Parlement européen, vous venez également de l'évoquer un petit peu. Est-ce que ce n'est pas une ingérence diplomatique de la part de l'Union européenne et du Parlement européen dans les affaires intérieures d'Israël que de débattre et que de porter un jugement.
Alors, ce débat, il se justifie par une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il existe un contrat d'association entre l'Union européenne et Israël. Et ce contrat d'association, qui porte notamment sur les échanges en matière universitaire, de recherche, de commerce, est extrêmement important. Je vais vous rappeler quelques chiffres qui montrent que Israël a absolument intérêt à ce que ça se poursuive. Parce que souvent, quand on parle d'Israël et de l'Union européenne, on pense toujours au conflit, en se disant que l'Union européenne n'a pas toujours été tout à fait impartiale dans ce conflit. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est 7 accords d'association. Et je vais vous donner quelques chiffres qui montrent que c'est pas des petites choses. L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. 34% des importations et 22% de ses exportations se font avec l'Union européenne. Vous avez 1,1 milliard d'aides pour Israël sous le programme de recherche qui s'appelle Horizon 2020. Vous avez 1,8 million d'euros par an qui sont versés à Israël au titre de l'instrument de voisinage pour la coopération en éducation. Donc 90% des établissements d'enseignement supérieur qui participent au programme Erasmus, qui est, vous le savez, le grand programme éducatif et d'échange de chercheurs et d'étudiants. Donc tout ça est absolument fondamental pour Israël. Et moi, donc, il est légitime qu'à un moment donné, on puisse se demander qu'est-ce qui se passe chez un de nos partenaires qui est, je vous le dis, un des partenaires les plus actifs. Cette coopération est l'une des plus fructueuses à la fois pour l'Union européenne et pour Israël.
Vous sous-entendez
la légitimité d'un tel débat. Mais je voudrais aller plus loin pour vous dire que moi,
Juste une question. Vous sous-entendez que si jamais l'Union européenne jugeait ou le Parlement européen jugeait qu'Israël est sorti des normes démocratiques, la coopération importante pourrait être remise en cause?
Moi, je pense qu'il faut absolument... Je ne veux même pas y penser. Je ne veux même pas l'envisager.
D'accord.
Parce que je suis optimiste et j'espère que nous allons tourner cette page. Mais bien évidemment, et je vais vous dire les choses à ma manière. Tout le monde aujourd'hui déplore, il y avait une unanimité dans l'hémicycle pour dire que cette réforme judiciaire n'est pas conforme aux principes démocratiques et qu'elle devait et qu'Israël devait y renoncer. Mais il y avait ceux qui en étaient bouleversés, comme moi, et comme tous les invités de J-Call, qui sont bouleversés par cette erreur qui est faite, mais qui n'est pas encore définitive, et dont nous espérons voir le gouvernement israélien s'éloigner. D'accord ? Mais vous avez tous les ennemis d'Israël qui, eux, se réjouissent et jubilés de pouvoir enfin taper sur Israël sans être entravés. Vous comprenez ?
Oui, oui.
Donc en fait, et eux n'attendent que ça, et certains d'entre
c'est
eux n'ont pas hésité à appeler aux sanctions économiques, ce que je trouve très grave à ce stade, parce que nous n'en sommes pas là. Et moi, ce que je veux exprimer à ce micro aujourd'hui, c'est que moi, j'ai toujours défendu ces accords. Il est très important pour Israël, pour la normalisation d'Israël avec tous les pays d'Europe. C'est fondamental. Et je vous l'ai dit, c'est aussi des intérêts économiques de recherche qui sont très importants pour Israël. Et j'ai toujours défendu l'idée d'un cordon sanitaire à mettre en place pour faire une distinction entre les affaires politiques qui sont d'un côté et de l'autre côté, les relations avec la société civile israélienne. Et je dois dire que lors de ce débat, le représentant de l'Union européenne, M. Borrell, qui n'a pas toujours été extrêmement favorable à Israël, a une parole très sage parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Et moi, j'étais heureuse de cela. Il a conclu en disant « Nous avons des rapports très forts avec la société israélienne et nous ne devons pas tout confondre. » Et je pense que ça, nous devons nous en réjouir. Mais ça, sachez que si les choses, effectivement, devaient se pérenniser et évoluer dans un sens de la confirmation de cette réforme et de tout ce qui s'en suivra, oui, les relations entre Israël et l'Union européenne pourraient être mises en danger, mais comme les relations entre Israël et les États-Unis pourraient être mises en danger, puisque Joe Biden, qui le déplorait, bien entendu, a publiquement appelé Bibi Netanyahu à abandonner cette réforme. Et de la même manière, vous le savez, les accords d'Abraham, qui sont tellement importants, sont en train, malheureusement, d'être considérablement fragilisés également par cette réforme et par tout ce qui s'en suivra. Parce que cette réforme, il ne faut pas pas se dire que c'est une réforme judiciaire et qu'on en fait tout un plat. C'est que à partir du moment où vous avez vous considérez qu'il n'y a plus de contrôle judiciaire sur le pouvoir politique, c'est la boîte de Pandore pour toutes les réformes qui pourront aller à l'encontre de tous les principes démocratiques. D'ailleurs, certains ont été cités l'autre soir. Il peut s'agir du refus de soins aux homosexuels par les médecins qui n'auront pas envie de soigner les citoyens qui auront cette préférence sexuelle, le rejet de l'obligation du port du bracelet électronique pour les conjoints violents, le détricotage de la loi du retour, hein, qui depuis, vous le savez, la Shoah permet à toute personne qui a au moins un de ses grands-parents juifs de faire son alia. Ce sont l'extension des pouvoirs des tribunaux rabbiniques pour juger les affaires civiles. Ce sont des choses qui sont la location d'appartements à des personnes qui ne seraient pas juives. Enfin, on est vraiment dans un bouleversement. Ce n'est pas une réforme judiciaire qui ne concernerait que les juristes.
C'est
l'essence même de l'État démocratique. Et ça, oui, cela remettra en cause non seulement ça pourrait remettre en cause les relations avec l'Union européenne, mais avec tous les grands alliés d'Israël. Et dans une phase où Israël était en train de progresser dans sa normalisation, y compris avec ses voisins. Donc oui, c'est avec tout l'amour d'Israël que nous disons stop à cette réforme, avec tous ces citoyens israéliens qui sont dans les rues et qui ne laisseront rien passer. Et évidemment, il ne faut pas baisser la garde parce qu'aujourd'hui, il y a eu un recul, mais se pose vraiment la question de savoir si c'est simplement une pause ou si c'est un renoncement. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, mais vous savez comme moi que le projet de réforme a été soumis mardi à la Knesset pour son vote final, ce qui permet, en théorie, d'être présenté à n'importe quelle date pour approbation avec préavis de 24 heures. Donc nous ne sommes pas sortis de cette affaire. Il ne faut pas baisser la garde. Est-ce que nous le faisons par amour d'Israël?
D'accord. Alors, une dernière question, Ilana Sicurel. Vous me répondez très, très brièvement, bien que ça soit un peu compliqué. Il y a certains députés européens qui lient la crise constitutionnelle actuelle en Israël avec la question palestinienne et l'occupation de la Cisjordanie. Vous en pensez quoi et pourquoi ils font cette liaison?
Ils font cette liaison parce que la Cour suprême a toujours été garante du respect des droits fondamentaux. Et dans un certain nombre de cas, elle a pu remettre en cause la construction de nouvelles implantations ou bien l'expulsion de familles palestiniennes. Donc il y a évidemment une interaction aussi avec la situation dans les territoires, puisqu'elle a été garante d'une forme de respect de l'état de droit. Et ça a été d'ailleurs une énorme fierté d'avoir cette Cour suprême justement qui était capable parfois de dire non et d'avoir l'État d'Israël qui, en État démocratique, respectant la séparation des pouvoirs, eh bien, mettait à exécution les décisions de la Cour suprême.
C'était le tampon cachère de la
loi. Nous sommes le peuple de la loi, nous ne pouvons pas remettre en cause le temple de la loi.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère qu'on aura l'occasion encore de vous avoir à l'antenne. Et merci d'avoir participé à notre émission, Ilana Sicurel.
Merci à vous et bonne fête à tous les auditeurs.
Voilà, Pessar Samar à tous et à bientôt sur Radio Shalom.
Merci, avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.